Bruit de fond.
Bruit de fond.
L'émission sur l'écologie de Radio Campus Grenoble.
Parce que la planète mérite d'être entendue.
Pour comprendre ce qui se joue près de chez nous et plus loin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bruit de fond, l'émission consacrée à l'écologie de Radio Campus Grenoble. Les élections municipales, c'est bientôt, et avec elles, il y a une question centrale qui se dégage: quelle écologie voulons-nous pour nos villes? Et donc c'est précisément autour de cette idée qu'est né le pacte pour la transition, dont le but est de lier transition écologique et justice sociale. Et donc il s'agit d'un texte qui a été co-rédigé par plusieurs associations, dont Alternativa Grenoble et Passons-nous 38. Et donc pour en parler aujourd'hui, nous recevons Clémence, Nicolas et Jawed, qui ont participé notamment à cette rédaction. Donc bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Mais donc, avant de leur laisser la parole et de vraiment commencer cette émission, on va écouter la chronique mensuelle d'universitaires, comme chaque mois. Et donc aujourd'hui, c'est Sydney et Titouan qui nous ont fait cette chronique. Et ils vont comparer les élections municipales en France et aux États-Unis. Et donc, pour les plus bilingues d'entre vous, ça va être l'occasion d'aiguiser votre oreille à l'anglais, car la chronique, elle sera cette fois-ci en pas en français, mais en anglais.
Le bruit de la terre.
Le bruit de la terre.
Sounds of the earth. A monthly chronic.
La chronique mensuelle d'universitaire.
L'association étudiante de sensibilisation aux enjeux environnementaux.
A student association focused on ecological awareness and sustainability.
Hi everyone, today we are going to take a look at something that is so important in the conversation around sustainability and the ecological transition, elections and public policy. Today we are going to discuss a bit the difference in the municipal election between France and the United States. And we have an American student to help us explain some things. Et oui, aujourd'hui ce sera en anglais. Let's welcome Sydney.
Salut! Yes, as a newcomer to life in France, it has been really interesting to see all the similarities and differences between the way systems function here in France versus in the United States.
When we are talking about public policy and the influence of on environmental and social issues, it's important to think about scale. Why is it so important to talk about municipal elections?
That's a great question. When looking at things from a national or even international level, it is very easy to get frustrated with the political party divisions, confusing policies, and the lack of action. However, it is important to recognize the important work that governments and laws can do on a local level, and participating in these elections can be important to push towards a more ecological future. Municipal elections determine local officials like mayors and clerks, and policies that affect daily life such as housing, roads, law enforcement, schools, community services, and of course local sustainability policies.
So what's the timeline for municipal elections in France and in the United States?
In France, the municipal elections typically take place in March. This year, they will be between the 15th to the 22nd of March, coming up soon. However, in the United States, federal elections always take place in November, but local or municipal elections can take place any time throughout the year, and it depends on the state and even the municipality.
Could you briefly explain the difference between the structure of municipal election in the US and in France?
Good question. Yes, it is a bit complicated. In both the US and France, to be able to vote, you must be registered, over 18 years old, and an official citizen. Also, the ways in which elections are run varies widely among the different municipalities. For example, in France, there are over 36,682 municipalities, and the voting system is dependent on the population size. However, in the US, there are over 90,000 different municipalities. Each municipality handles their own elections for city council, mayor, etc., as well as the voting on major local laws.
And can you give us some example of the way of municipal elections can influence environmental and social sustainability efforts both in France and in the US?
Yes, and this is what I really hope you all take away from this conversation. In the case of the United States, individual states have the power to pass laws for their state that have had a really wide impact. Just some notable examples are California's Renewable Portfolio Standard, which mandates that 60% of the state's electricity comes from renewable sources by 2030, as well as Massachusetts' ban on commercial food waste. At an even more local level, small municipalities, such as my hometown of Steamboat Springs, Colorado, passed a major climate action plan, as well as a bill that banned the use of single-use plastic bags.
Yeah, cool. That's it has a really, really big impact. And what about France?
One great example is what is going on right here in Grenoble. The Grenoble-Alpes Metropole opened a citizen participation consultation prior to the launch of the new 2020-2030 Climate Air Energy Plan. After more than a year of participatory processes from citizens and getting their feedback, the updated plan was presented last February. This comprehensive plan has goals focused on reducing greenhouse gases and reducing air pollution, which, like we talked about last time, is a very big local issue.
And at smallest case, how can individuals can get involved into the political policies beyond municipal elections?
In addition to voting, which of course is very important, people can take part directly in municipal council meetings, public consultations, and even committees, such as those dedicated specifically to environmental issues.
Well, there you have it. No matter where you're from, voting and participating in a local election can have a bigger impact than you think. Until next time, thank you for listening.
Eh bien, merci Sydney et Titouan pour cette chronique. Et donc maintenant, pour en revenir au sujet de cette émission, on va parler du pacte pour la transition, donc qui a été rédigé par les associations Alternatiba Grenoble et Passons-nous 38. Et donc ce pacte, il comprend 6 propositions de mesures pour tous les candidats à l'élection municipale. Mais donc pour en revenir un petit peu à la genèse de ce pacte, donc vous encouragez les listes candidates aux élections municipales de la métropole à s'engager et à signer ce pacte. Mais d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé de rédiger ce pacte et comment il est né?
Bonjour. Alors ce pacte, il est né d'une précédente expérience de ce qui s'appelait également le pacte pour la transition, qui était un outil créé pour les élections municipales de 2020 et un outil créé au niveau national par le collectif pour une transition citoyenne, le CTC, un collectif qui regroupe plus de 60 associations. Et en fait, c'est un outil de plaidoyer qui mêle les enjeux d'écologie, de justice sociale et de démocratie, et ensuite autour de thématiques un peu plus particulières comme l'énergie, les transports, l'alimentation, l'aménagement et l'urbanisme. Et là, pour cette nouvelle élection municipale, à Alternatiba Grenoble, on avait envie de continuer avec cet outil. Et on avait déjà un peu des contacts avec Passons-nous 38, et qui étaient également intéressés par cet outil. Et donc, on a décidé de travailler ensemble.
Oui, et donc justement, toi Clémentine, donc Clémentine, Nicolas et Nicolas, vous êtes d'Alternatiba Grenoble. Et toi, Jaouette, tu es de l'association Passons-nous, donc vous avez vraiment co-rédigé aussi avec 2 autres associations du quartier de la Villeneuve. Donc je voulais justement vous demander d'où est née cette union. Voilà, Jaouette.
Alors, comme l'a dit Clémentine, c'était par une volonté de continuer un travail en commun. Et puis, c'était pour se saisir de la question de l'écologie populaire et à partir des quartiers. Et les 2 associations qui nous ont accompagnés, Old Concept et Villeneuve Dynamique Jeunesse, qui sont de la Villeneuve, du quartier de la Villeneuve, c'est les problématiques du quotidien. C'est-à-dire que là, on a ce qu'on ne se reconnaît pas dans les mesures telles qu'elles sont proposées, même si on les entend, on les comprend, mais comment ça se traduit clairement dans le quotidien des gens, que ce soit des quartiers populaires ou de toute classe populaire, et notamment celles qui sont des classes populaires inférieures. Et c'était cet axe pour donner vie, pas qu'à des mots, pas qu'à des paroles, mais à des actes, et qui puissent engager une transformation réelle, que les gens puissent se dire « bah tiens, là, il y a quelque chose qui me parle et je peux m'engager ».
Oui, et donc justement, comment est-ce que vous avez travaillé conjointement avec les 2 associations de la Villeneuve ? Comment s'est organisé un petit peu le travail ? Puis du coup, elles ont rédigé avec vous ou elles étaient plutôt un peu votre... lien entre la Villeneuve et vous, enfin voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien le...
Alors du coup, ce qu'on a fait comme travail, c'est déjà de se dire qu'il faut arrêter de repartir à zéro comme si on ne savait pas ce qui se passait, comme si on n'avait pas déjà fait tout le travail. On est expert et c'est ça déjà qu'on essaye de revendiquer, de se dire on est des acteurs à part entière, on est des experts à part entière. Donc on sait ce qui se passe dans nos vies et on sait. Il nous suffit juste de changer le langage, de parler le même langage populaire. Ça ne sert à rien d'utiliser des termes techniques et de parler simplement. Et une fois qu'on a parlé simplement et on a fait des mesures, par exemple, autour du logement, en fait, la parole est libre et elle se libère. C'est-à-dire que là, les gens vont identifier très vite les problématiques, et pas forcément en parlant d'écologie, en libérant les choses. Tout est écologique, tout est environnemental, parce que tout est dégradé. Et à partir de là, à partir de ce quotidien-là, comment on transforme ça en une mesure? Et ça a été toute la co-construction qu'on a fait, c'est-à-dire d'apprendre aussi à une acculturation entre les deux collectifs, de se dire, bah voilà, assumons notre expertise. On a des années de présence, on a des années d'expertise, et on vit dans ces quartiers pour la plupart, et où on est issu de ces quartiers, on a un lien extrêmement fort. Donc c'est ça, en fait, le point de départ, c'est ça. Et on s'est fait un petit peu un travail comme une antithèse. C'est-à-dire, ben voilà, on va écrire ce qu'on a récolté et puis on va le confronter à la réalité. Et du coup, c'est ça qui s'est passé et on a pu confirmer en gagnant du temps, pas en repartant, en faisant des questionnaires. Est-ce que les... Non, dans le quotidien des gens, on est interpellé. J'ai des cafards chez des rats, il fait trop chaud chez moi, il fait trop froid. Regarde, c'est mal fait. Et la question est vite arrivée sur la question, par exemple, de l'air intérieur qui est plus pollué que l'air extérieur. Donc comment on traite cette question? Et ça, c'est une inégalité. Parce que toutes les mesures concernent l'air extérieur. Et là où les gens vivent au quotidien, on n'en parle pas.
Donc finalement, c'est une approche très transversale et intersectionnelle aussi de l'écologie. Et donc justement, à ce niveau-là, en quoi ce nouveau pacte pour la transition, il a changé par rapport au précédent? Parce que vous en aviez déjà rédigé un juste avant la candidature d'Éric Piolle, le maire actuel sortant, du coup. Donc, qu'est-ce qui a changé dans...
Eh bien, bonjour. Donc, ce qui a changé principalement, c'est qu'on a un nombre plus réduit de mesures. Avant, on était sur 15 mesures différentes avec 3 niveaux d'engagement en fonction de l'implication que souhaitaient avoir les communes. Donc, c'était assez lourd à suivre. Et puis, surtout, c'était des mesures assez techniques qui étaient la déclinaison des mesures qui avaient été fondées au niveau du pacte au niveau national, et qui reprenait une bonne partie des mesures techniques qui pouvaient être déclinées dans le plan climat air énergie métropolitain. Donc on parlait d'horaires pour éteindre les lumières la nuit, on parlait de choses assez techniques, sur l'énergie, sur les transports. Et donc là, la grosse différence, c'est que, comme on l'a un peu expliqué, c'est que on a voulu repartir de la base, et la base, ce sont les gens qui habitent le territoire, et c'est pas des choses qui viennent, on va dire, de plans, on va dire, nationaux ou métropolitains. On a voulu clairement travailler avec les gens qui, au quotidien, subissent les conséquences du changement climatique et puis des problèmes de pollution.
Et donc justement, comment vous avez travaillé justement pour pas parler à la place de ces personnes, mais plutôt de construire avec complètement?
On s'est appuyé sur l'expertise de Jawed, qu'il a depuis de nombreuses années avec, des dizaines d'associations de terrain. Donc il a récolté énormément de témoignages et d'expériences dans ce domaine-là, et il nous en a fait profiter. On a pu aussi commencer à rencontrer les associations au niveau de la Villeneuve lors d'une soirée qu'on a fait au Carré, que Jawed a organisée. Donc voilà, ça nous a permis de vraiment comprendre vraiment l'étendue de ce que peuvent vivre les gens et du coup de l'inclure vraiment comme un élément à part entière des mesures qu'on a rédigées. Voilà.
Et donc justement, en parlant de ces mesures, quelles mesures peuvent être l'exemple justement de ce travail de co-construction avec les habitants? Parce que c'est vrai qu'on parle depuis avant du pacte pour la transition que vous avez rédigé, mais on n'a pas encore cité vraiment ce qu'il contient. Donc c'est... oui.
Alors pour revenir aussi un petit peu, compléter ce qu'a dit Nicolas, c'est qu'on est les habitants. Et ça, c'est aussi une chose qui est différente, c'est que ces associations-là, elles ne font pas sur les habitants, c'est les habitants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien souligner. Et dans ces mesures, en fait, il y en a la première, c'est lutter contre l'habitat indigne et le mal logement, en rappelant que le droit au logement et au logement digne doit être appliqué. Et dans cette thématique-là, il y a cette prise de conscience qu'il faut avoir sur l'indignité. Si on parle d'environnement, si on parle d'écologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas ignorer l'air intérieur qui est vicié. quand les appartements ne sont pas aux normes, ne correspondent plus à ce que l'on subit et qui sont pleins de moisissures, qui sont pleins d'insalubrité, il faut agir. Et en partant de ce constat-là, on a fait une mesure en disant il faut lutter contre le mal logement, il faut lutter contre cette insalubrité et que la mairie a des moyens. Un des premiers moyens, c'est de pouvoir créer un comité local d'hygiène pour pouvoir mettre à disposition tous les leviers juridiques et tous ces services au service justement des habitants, notamment pour qu'ils puissent constater qui sont dans une insalubrité et de créer une grille avec eux. Et cette grille-là doit aussi comporter de définir que lorsqu'il y a des passoires thermiques où il fait trop chaud à l'intérieur des immeubles en été et trop froid l'hiver, c'est des conditions d'insalubrité. Et que ça aussi, ça doit être dénoncé parce que la loi le permet. Donc c'est de pousser les maires à prendre leurs responsabilités, une posture politique, et de mettre aussi la police municipale au service des habitants, parce que le pouvoir de police peut dresser des procès-verbaux. Et là où on galère dans les quartiers, c'est que on a du mal, face à une misère administrative, face à une complexité d'accès au droit, de recours au droit, d'appliquer le droit, et bien la police est la première instance que la mairie peut mobiliser pour faire des procès-verbaux, travailler sur la production de la preuve et de pouvoir aller aux côtés des habitants jusqu'à déposer plainte et sortir de l'insalubrité. Donc c'est un petit peu ça qui est ressorti. Et de dire aussi, de rappeler, hein, je finirai par ça, que c'est le droit au logement et au logement décent qui doit guider toute le pacte pour la transition, c'est cette notion de droit et de dignité.
Oui, Clémentine. Ouais,
ce que pour compléter, c'était pour dire aussi que dans cette mesure, effectivement, le cadre législatif et administratif du logement, c'est complexe. Et puis les acteurs, ils sont partagés. Mais les communes, elles ont aussi un pouvoir et elles ont un rôle moteur. Et il faut qu'elles s'en emparent pour, comme le dit bien Jaoued, pour être au service des habitants et vraiment assister, aider, être là.
Oui, et donc donc ça c'est une des grosses mesures et je pensais aussi peut-être pour ça que vous l'avez placée en mesure 1 en fait. Enfin, comment est-ce que vous avez un petit peu hiérarchisé et choisi ces mesures? Est-ce que vous êtes quand même un petit peu basé sur l'ancien pacte ou vous avez tout recommencé de zéro ou... Ça a dû être compliqué aussi de choisir vraiment des points fondamentaux parce que quand on pense écologie on pense à tellement de choses, donc comment vous êtes pris? Ça a dû être de longs débats.
Ça a été des longs débats, je veux bien rebondir là-dessus. Parce que déjà, tout simplement, le logement, ça concerne tout le monde. Et que c'est ce qu'on constate là. Bien sûr qu'on parle des quartiers populaires parce que c'est les plus exposés. Mais en centre-ville, que ce soit dans les Crous, que ce soit, ça concerne tout le monde. Déjà, c'est une mesure universelle.
Oui, le travail d'élaboration, effectivement, on n'est pas reparti de zéro. On est reparti de thématiques qui nous préoccupaient. Le logement, c'est quand même une question sur laquelle tu t'intéresses depuis pas mal d'années, Jaoued. Et on est reparti du précédent pacte. On est reparti également du travail qui est effectué aussi au niveau national, parce que le pacte transition là, 2026, il s'inscrit également dans une campagne au niveau national qui s'appelle Mérimi, et pour lequel donc le CTC avait élaboré une série de propositions qu'ils avaient mis en ligne et sur lesquelles ils proposaient à tous les citoyennes et tous les citoyens de donner leur avis. Donc on est aussi allé chercher les ressources pour continuer à se documenter, à s'informer. Et puis ensuite, là on est quatre pour enregistrer cette émission, mais on est plus que ça pour travailler. Et donc on a eu quand même pas mal de réunions de travail, de discussions. Puis on s'est regroupé ensuite en petits groupes pour avancer et faire du tri. Parce que en fait, il a fallu aussi faire des choix. Dans une manière de trier, c'était aussi de se dire il faut qu'on soit ambitieux, mais aussi il faut qu'on soit réaliste par rapport aux compétences qui dépendent des communes, vis-à-vis de l'échelon intercommunal ou encore des syndicats. Donc ça aussi, c'est un peu rentré en jeu dans notre élaboration du pacte pour la transition.
Oui, de différencier aussi un petit peu les compétences du maire, du département, de la région et aussi national, parce que c'est sûr que le maire n'a pas tous les pouvoirs non plus. Et oui, et justement, à ce sujet, et ben, on va faire... petite pause pour écouter Ferris Barquette, qui est fondateur de Banlieue Climat et qui a été interviewé par la radio-télévision belge.
Le combat, c'est juste empêcher la mise à mort des miens. Quand tu regardes un rapport du GIEC, forcément, tu te dis on est tous dans la merde, on va tous mourir. Sauf que pas tous égaux, il y a des gens qui sont en train de crever avant les autres. Si on pense que Banlieue et Climat, c'est incohérent, c'est parce que culturellement parlant, il y a un problème dans la manière dont on va voir la question des banlieusards, des jeunes de quartier. On va se dire c'est pas un sujet fait pour eux. Alors à partir de quel moment, toi tu te dis c'est pas un sujet fait pour eux? Donc là il y a un mépris de classe, sauf que ce mépris de classe il est internalisé, ou même nous on va se dire c'est pas un sujet pour nous. Même nous on va se dire en vrai de vrai, ils sont complètement tartés ces gens-là, pourquoi ils nous parlent d'écologie tous les 4 matins? Donc nous-mêmes on a commencé à, et ça qui m'a fait je pense le plus de peine, moi j'ai eu la chance d'avoir des professeurs, des gens qui m'ont accompagné. Forcément à force qu'on te répète que t'es nul ou que t'es pas fait pour ça ou pour ci, et ben tu commences à le croire. Que le regard des autres, on peut pas y faire grand chose dans un premier temps en tout cas. Par contre le regard qu'on a sur nous-mêmes, ça on peut le changer.
En tant que jeune de quartier, eh ben, on se dit que le climat c'est un truc d'élite. Genre c'est pas un truc fait pour nous à la base.
Vous doutez que c'était grave, et pourtant ça.
L'idée c'est de dire il faut trahir ce qu'on attend de nous. Et c'est pas parce qu'on pense qu'on va pas aller s'occuper de tel ou tel sujet, qu'on pense qu'on va pas aller rentrer dans tel ou tel musée, dans telle ou telle institution, qu'il faut rester là-dessus. Et je pense qu'il faut réussir à casser un peu cette image-là, parce que c'est la seule manière de montrer que on est plus que l'image qu'on a de nous. Et je pense que ça devient de plus en plus urgent avec notamment l'extrême droitisation qu'il y a en France.
Canicule 2003, 19 000 morts. Le plus de morts, c'est où? Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis. Vous prenez la qualité de l'air, vous prenez absolument tout, on est les plus exposés. C'est un sujet qui est éminemment social. On avance ensemble ou on n'avance pas?
Je pense qu'on pourrait trouver une solution. Et c'est pour ça qu'on est là, pour le climat.
La culture, elle a de ça qu'elle peut vraiment normer les visions des gens, tu vois. Si je commence à avoir que des expos sur la question de la place du climat dans les banlieues, d'un coup, ça va devenir naturel. Un musée, c'est un service public, donc les œuvres, à proprement parler, ne sont pas censées être réservées à une élite. Pourtant, de par la construction des musées, on sait que c'est toujours les mêmes qui y vont. Comment ça se fait? Et donc, du coup, ces questions-là, on peut se les poser aussi. Et donc, tu casses la question juste de ce qui est autorisé ou pas. Qu'est-ce qui est légitime? Est-ce qu'on est légitime de rentrer là-dedans ou pas? On a ramené 50 mamans au palais de Tokyo, la plupart n'étaient jamais allées. Tous les cas, ça a la même vocation, c'est de dire à la fin des fins, on recrée un autre récit que celui qu'on veut nous imposer. On s'autorisera toujours à aller parler et à maîtriser, même si on ne nous attend pas là. C'est-à-dire que sur un plateau de France Inter, on peut avoir l'expertise scientifique pour parler du permafrost ou je ne sais pas quelle question, on peut avoir la légitimité pour parler de tel ou tel tableau du musée d'Orsay ou je ne sais quoi, mais pour autant, on va rester nous-mêmes. Et ça, c'est très important parce que au moins, on aura essayé d'avoir l'expertise et de l'allier avec qui on est vraiment. J'ai pas la prétention de me dire que je vais parler avec tout le monde. Je pense que moi-même, je vais finir par m'embourgeoiser et parler bizarrement un jour. Et c'est comme ça.
Mais nous, on va apporter notre touche à nous, qui va faire que la fissure d'espoir, elle va se déclencher et créer ces étincelles-là. Et je pense qu'on peut les créer qu'en restant nous-mêmes, peu importe qui on va avoir en face de nous.
Je pense qu'il faut être en mesure de reconnaître sa valeur, savoir que notre culture, elle est tout aussi légitime, notre manière de parler, elle est aussi tout aussi légitime, elle est faite... par une histoire, par une trajectoire, et il faut l'assumer et en même temps avoir aussi la capacité de faire des ponts.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter une interview de Ferris Barquette, fondateur de Banlieue Climat, qui a été interviewé par la radio-télévision belge. Et donc cet extrait montrait bien les liens indéniables entre transition écologique et justice sociale et surtout le besoin d'écouter les banlieues à ce propos, parce que finalement c'est aussi les plus exposés au danger du réchauffement climatique. Et donc Jawed, je te voyais acquiescer souvent à ce qu'il disait, donc peut-être que tu veux réagir sur ce qui a été dit ou...
en fait c'est exactement ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on a assumé notre expertise, on l'a imposée. Dans le travail, comme on l'a fait, on a travaillé avec, notamment, et c'est pas pour rien qu'on a travaillé avec les plus jeunes d'entre nous. Là où j'accesserai pas dans ce qui a été dit, c'est que ça me dérange toujours de dire les jeunes des quartiers. Pourquoi les autres jeunes, c'est des jeunes. Pourquoi nous, c'est des jeunes de quartier. De faire attention à ce qu'on entend derrière les jeunes de quartier. C'est peut-être un peu la prévention. Et c'est tous les biais par lesquels on regarde. C'est pour ça que cette écologie populaire a été importante pour nous, de dire attention aux biais par lesquels vous regardez et la domination. Ce qui nous caractérise, c'est un racisme environnemental. Il faut le dire et il faut l'assumer. Dans l'écologie populaire, il y a cette question de lutter contre le colonialisme. Mais le colonialisme, il est aussi dans le savoir. C'est ce qu'on a dit. Pourquoi on ne s'intéresse pas sur l'air intérieur alors qu'il est plus pollué que l'air extérieur? Et là, on peut aller chercher les responsables de cette pollution de l'air intérieur. Par contre, la vérité, c'est que c'est toujours les mêmes qui subissent tout, qui subissent ce racisme environnemental, qui subissent ce mépris et cette invisibilisation, et de penser que nous ne sommes pas capables de nous saisir de cette question. Mais il faut voir le langage qu'on nous met, il faut voir la technicité qu'on nous met pour nous tenir bien éloignés. Par contre, on est les premiers exposés, parce que c'est les quartiers qui sont exposés le plus. Alors, à la Villeneuve, il y a un grand parc, donc il y a des choses qui sont différentes. N'empêche que si on prend comme critère l'air intérieur, celui-là, il n'est jamais pris. Je l'ai jamais entendu. Tu peux aller respirer ton air à l'intérieur, ta moisissure, tout ce que tu veux, on n'en a rien à faire. Par contre, il faut que tu ne manges moins de viande, parce que tu sais, ça a un impact de CO2. Donc il y a une inégalité de traitement, avec des solutions qui ne sont pas faites pour celles, pour tout le monde, et qui sont faites pour les plus riches d'entre nous, ceux qui ont les codes, et ceux qui veulent un air plus... et qui ont la capacité, en plus, d'aller acheter où ils veulent, quoi. Donc ils ont la liberté de choisir leur lieu de vie. Nous, on a la liberté que de choisir entre les discriminations. C'est la seule liberté qu'on nous donne. C'est ça le message sur lequel j'acquiesce beaucoup, et de dire c'est tout le travail qu'on a fait avec Alternatiba, et qu'il y a eu des moments où il a fallu expliquer des choses, il a fallu faire comprendre qu'est-ce que ça voulait dire réellement. Et des fois, il y a des choses sur lesquelles on est surpris, parce que, en fait, on a appris les uns des autres, quoi.
Et c'est aussi, je pense, savoir prendre du recul sur des pratiques qui, au final, sont installées et où on nous a peut-être toujours dit c'est bien, par exemple, de manger moins de viande ou des choses, mais qu'on n'a jamais pris de recul sur la situation. Donc, c'est aussi ça, peut-être, le but. Et donc, dans cet extrait, Fériz Barkat, il parlait aussi de la culture et des musées, de l'accès à la culture. Et justement, vous avez une mesure sur le patrimoine. Pourquoi avoir intégré justement ce patrimoine culturel dans le pacte pour la transition
Alors, c'est pas franchement le patrimoine, c'est les droits culturels. C'est-à-dire que là, Fariz, ce qu'il a dit, c'est autour de la culture, telle qu'on l'entend, les musées, le cinéma, le théâtre, l'accès à la culture et la production culturelle. Là, on va un petit peu plus haut, on élargit, c'est les droits culturels. C'est le droit à chacun de dire qu'est-ce qui le définit, de défendre sa culture qu'il a héritée, l'héritage, et qu'est-ce qui fait patrimoine pour lui. Et c'est dans cette notion-là de qu'est-ce qui fait patrimoine pour les habitants, qu'ils soient du quartier ou pas. D'ailleurs, qu'ils soient des banlieues, qu'on appelle ça comme on veut, mais même à la campagne, même ailleurs, qu'on doit donner cette puissance citoyenne aux gens de définir par eux-mêmes qu'est-ce qui fait un patrimoine matériel et immatériel, et ça devient intouchable. Et quand je dis patrimoine immatériel, je parle bien sûr de l'environnement, je parle bien sûr du sol dont on ne parle jamais, je parle de l'eau, je parle de tout ça, je parle du bâti. Je parle de... Dans les quartiers, on subit beaucoup de démolitions, on a des injonctions à participer, mais on ne peut que décider de rien du tout. Donc c'est un patrimoine vivant, et de donner les conditions de comment on le préserve, comment on le transmet, et comment on raconte, ce qu'il disait Fariz, notre récit. Parce que quand on dépouille les gens de leur récit, de leur identité, on veut les vider de leur substance pour qu'ils soient des citoyens manipulables.
Et donc, justement, le but de ce pacte, c'est aussi de faire les liens, le lien entre citoyens et politiques, donc un petit peu comme une sorte de démocratie participative, si je puis dire. Et donc, justement, comment vous avez prévu si le futur maire de Grenoble aura signé le pacte, d'organiser ces discussions conjointes entre politique et citoyen
Ces mesures, quand elles seront signées par futur ou la future maire de Grenoble, en fait, on va procéder à un suivi en fait régulier, et du coup Lors de ces suivis, on pourra faire participer, ou en tout cas, on aura avec nous, tous ensemble, on ira devant des élus pour leur dire, bah voilà, qu'est-ce que vous avez engagé à, on va dire, élection plus 18 mois, mi-mandat, fin de mandat, à différents moments de la mandature, pour demander des comptes, entre guillemets, sur ce qui a été mis en œuvre ou pas, quelles sont les difficultés, quels sont les succès, bien sûr, on espère. Et donc, tout ça, ça ne sera pas juste entre eux et un ou deux d'entre nous, c'est tous ceux et celles qui voudront venir participer et assister à ces réunions techniques, eh ben, ils seront bienvenus. Voilà.
Donc, ce sera des réunions publiques ou...
Ce sera des réunions qui ne seront pas forcément ouvertes au public, mais en tout cas, n'importe qui du collectif entre Passons Nous, Alternatiba et les autres associations de quartier qui participent au pacte, ben, pourront venir. Voilà.
Et sachant qu'en fait, nos associations, c'est des associations de personnes, de citoyens, de citoyennes, donc n'importe qui peut rejoindre l'association. Après, effectivement, on n'est pas non plus des acteurs de la démocratie participative en tant que telle. On est nous-mêmes, en fait,
Un ensemble citoyens. De citoyens qui...
Et on est ouvert à tout le monde.
Voilà. Et pour compléter un peu ce que disait Jawed, en fait... Le but de ce nouveau pacte et de la façon dont on l'a construit, c'est aussi de démocratiser l'écologie, parce que c'était quelque chose d'assez, on va dire, technique, qui était connu par un petit nombre, on va dire, ou maîtrisé, entre guillemets, on pensait, par un petit nombre de personnes. Et on s'aperçoit que, en fait, si on est réaliste et on veut être efficace, il faut déjà partir du fait que il faut rendre l'écologie populaire. Si c'est quelque chose qui n'est souhaité, on va dire validé, que par un petit nombre de personnes, l'immense majorité des gens prennent ça comme étant des injonctions, comme étant des choses, on va dire, négatives, et sur lesquelles ils n'ont pas leur mot à dire. Alors que c'est complètement idiot de partir de ce principe-là. Il faut que ça soit d'abord populaire, et il faut que ça soit accepté et construit par toutes et tous. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose. Sinon, en fait, c'est perdu d'avance.
Oui, forcément, c'est pas en mettant des mesures qui concernent qu'une partie de la population que ensuite ça puisse être...
Fait par une partie de la population pour tout le monde, voilà, alors que les autres personnes n'ont pas été consultées.
Et donc, justement, en vous, à quel point l'échelon local, il est déterminant aussi un petit peu dans la mise en place d'une politique écologique ?
Si on compare à l'écologie et à l'environnement, on ne peut pas voir ça que d'un tout ou qu'à partir d'un prisme. Ce sont tout ce qui va constituer la biodiversité, c'est tout un ensemble d'échelons et c'est tout un ensemble d'actions et d'interactions. Et du coup, c'est ça, c'est qu'il faut partir de là où on a un pouvoir, et on a oublié souvent, en fait, et c'est par exemple, si je reviens sur la mesure du logement, en fait, on oublie tout simplement que la mairie a aussi des leviers. Et déjà, si ces leviers étaient activés, c'est ce qu'on demande. Déjà, là, on va pouvoir lever pas mal de choses, faire pas mal de travail et aller plus en profondeur sur la compréhension de ce que l'on vit, nous, dans les quartiers, les habitants des quartiers populaires, de ce que l'on subit, de le traduire dans ce langage technique et de peut-être d'avoir cette facilité aussi de traduire ce langage technique en langage plus simple. Et ça, déjà, rien que si on arrive à faire ça, ça engage pas mal de choses. Et si ça ne s'inscrit pas dans le quotidien et que ça ne transforme pas la vie des gens dans leur quotidien, s'ils ne sont pas bien chez eux, s'ils vivent un air qui est vicié et qu'on leur dit non mais prends pas ta voiture mais quand tu rentres chez toi tu peux respirer l'air que tu veux. J'ai une anecdote un petit peu à raconter, c'est qu'on s'est mobilisé dans un quartier de la métropole, pas à Grenoble, de la métropole, et qu'il y avait des travaux dans un quartier. Dans ces travaux, ça a créé de la moisissure, on a interpellé, on a fait des photos, on a fait appel à un huissier et il y avait un bébé qui était greffé dans la chambre et il respirait un air qui était pollué. Et on a fait les constats, tout ce qu'il fallait. On n'a pas été entendu. Donc, quand le cœur, comme ça, dans le quotidien des gens et la lutte des gens, juste pour avoir, ne pas respirer, juste de la moisissure, que ça devient un combat et que ces luttes sont ignorées dans l'écologie, que personne ne vienne parler de justice. Donc, c'est ça. Et ça, on peut se mobiliser dans le quartier. C'est la responsabilité de tous pour construire une ville qui nous ressemble et qui soit inclusive, qui soit en santé pour tout le monde. C'est déjà ça.
Oui, et pour compléter, en fait, l'échelle du municipal, l'échelle de la commune. Alors après, là, on a un pacte qui est concentré a priori sur des grandes communes, mais l'échelle municipale, c'est une échelle proche du cadre de vie, du quotidien des gens. Donc les actions qui sont prises par les mairies, les habitants, ils voient tout de suite ce que ça peut donner. C'est une échelle où on est proche du cadre de vie, et c'est peut-être aussi on avait vu que dans les différents types d'élections, les élections municipales, et en fait la personnalité du maire, c'est quand même ce qui a un peu plus de respect ou d'un côté assez plus favorable par rapport à des figures telles que les députés ou le président ou la présidente, qui sont qui peuvent être plus déconnectés.
Oui, justement, il est plus proche forcément des citoyens, et c'est aussi des actions qui ont un impact direct. Donc justement, à ce propos, il y a des témoignages qui ont été récoltés par le Dauphiné Libéré de quelques Grenoblois. Donc on va les écouter.
Je trouve que ce n'est pas une ville très attrayante. D'ailleurs, il suffit de regarder le nombre de magasins qui ferment. Je pense voter pour Ruffin. Je pense que la ville ne s'est pas améliorée au niveau culturel. Aménagement, il y a plein d'endroits qui ne servent plus. Le palais des sports est sous-occupé, le théâtre est sous-occupé, la patinoire Clémenceau n'existe plus, etc.
Pour l'instant, j'ai pas mon choix qui est définitif. Vraiment, le point central, c'est remettre de la vie vraiment dans Grenoble, qu'on puisse sortir de chez nous et pouvoir tout faire dans Grenoble, parce que c'est une très belle ville qui était très vivante avant. Donc j'espère que ça va revenir et qu'on soit pas obligé d'aller dans les grands centres commerciaux autour de Grenoble pour faire les magasins.
Les deux derniers mandats d'Éric Piolle, je sais que moi, j'entends beaucoup de critiques, négatives en tout cas. Difficile de juger parce que la tâche est complexe. Je trouve que dans ce monde d'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à laisser la place en fait aux citoyens, et le monde politique, je le trouve très déconnecté. Et j'ai trouvé un parti qui est un parti qui laisse la place au dialogue, au débat, et puis à la voix citoyenne.
Hervé Gerby, au premier tour, sans doute. Tout sauf écologie et LFI. Je déplore ce qui se passe pour les gens de Gaza, mais j'en ai ras-le-bol de ce discours qui nous est imposé par la ville de Grenoble, cette pollution visuelle. La propreté, c'est une catastrophe.
Saleté dans la ville, très sale, des tailles de partout, il y a un laisser-aller manifeste. Mon choix est déjà fait, mais comparer les programmes des uns et des autres, j'ai pas trop le... Pas trop le temps de...
J'ai prévu d'aller voter Alain Mouneau. Donc j'aime bien son parti, de ce qu'il propose. Franchement, on a une très belle ville, on a un très beau centre-ville. Et au jour d'aujourd'hui, le centre-ville est en train de mourir, quoi.
Monsieur Piolle, écoutez, c'était peut-être pas mon candidat préféré, mais je trouve qu'il a qu'il s'est pas trop mal débrouillé et qu'il n'a pas fait de grosses bêtises. Voilà.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter les témoignages qui ont été récoltés par le Dauphiné Libéré des habitants de Grenoble. Donc ces petites interviews, elles font suite à un sondage qui a été fait, sondage Ipsos justement, avec le groupe EBRA. Ce sondage, ce qui se dégage un petit peu, c'est que le travail qui a été accompli par la municipalité de Grenoble, il faisait pas l'unanimité. Et donc c'est une ville qu'on voit qui est divisée. Donc je voulais vous demander, vous, qu'est-ce que vous retenez du mandat d'Éric Piolle, et qu'est-ce que vous espérez pour Grenoble, pour ses futures municipales?
Du mandat d'Éric Piolle, il y a quand même des choses positives, je trouve, en termes de déplacement sur le territoire, avec la piétonnisation ou la pseudo-piétonisation du centre-ville. Je trouve que c'est quelque chose qui a apporté énormément de choses, malgré toutes les réticences qu'ont eu certains et certaines. Je trouve que ça apporte une qualité de vie et vraiment, vraiment très importante, qu'on sorte du tout voiture. Parce que voilà, on le sait tous, il y a énormément un énorme pourcentage de transport qui fait encore en voiture pour des tout petits trajets sur l'agglomération, alors qu'on est un espace très réduit et qu'on pourrait facilement faire autrement grâce à notre réseau de vélos et aussi de transport. Donc ouais, c'est Il y a toujours des points négatifs et des points positifs, mais globalement, après c'est personnel, hein, je trouve que c'était quand même pas mal. Mais après, il y a effectivement quelque part aussi un certain immobilisme qui s'est installé, il faut le reconnaître, qui demande en fait à être poussé, et c'est pour ça qu'on est là aussi.
Clémentine.
Et puis je rappelle quand même que on a quand même une posture apartisane dans nos associations, donc on va pas dire voter pour tel parti ou tel parti. Oui. Pour le temps, on n'est pas apolitique, donc il y a quand même on défend des choses, des valeurs. Et puis deuxième point, le pacte il s'adresse à Grenoble, mais il s'adresse à toutes les communes de la métropole.
Voilà, oui, et je pense que c'est bien de le rappeler justement que vous n'êtes pas lié à un parti précis et que n'importe quel candidat de la métropole grenobloise peut signer. N'importe quelle liste candidate peut signer ce pacte. Jaouet, tu voulais rajouter?
Moi, je vais rajouter ce qui a été dit, c'est que ce qui nous a fait se rencontrer aussi, c'est que c'est ce côté apartisan à religieux. On a une parole politique, il n'y a pas de souci, et elle se concrétise dans le pacte. Et du coup, faire le bilan de la municipalité de Grenoble, ce n'est pas l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de s'adresser à toute la métropole. On a fait ce choix-là et que c'est les électeurs qui feront le bilan. Nous, ce qui nous réunit, c'est de faire ce travail. Et on a un petit peu discuté de dire, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on est absent dans les quartiers de différentes choses. Comment on revient dans cette écologie populaire? Et la meilleure façon de faire, c'était de faire ce pacte-là et de rester dans quelque chose d'apartisans pour garder cette casquette-là. On est là pour travailler avec tout le monde. Par contre, dans le préambule, oui, on est. La seule chose que je dirais, c'est que on a des valeurs qui sont celles des valeurs des droits humains, de la lutte contre le racisme, contre les discriminations. Du moment qu'on respecte ces valeurs-là, on discutera avec tout le monde.
Et donc justement, pour le moment, est-ce que vous avez déjà des listes qui sont signataires ou de potentielles listes intéressées par votre pacte? Parce que vous avez eu le lancement du pacte le 4 février, donc c'est encore très récent.
Oui, exactement. Pour le moment, on a quelques contacts avec certaines listes qui nous semblent intéressées. Certaines sont restées discuter un moment après la présentation publique. Effectivement, on est déjà en contact avec certaines. Qu'on pourrait rencontrer cette semaine ou la semaine prochaine. Actuellement, aucune liste n'a encore signé, mais on a plusieurs contacts qui nous ont laissé entendre que ce serait vraiment quelque chose qui serait faisable, ouais. Très prochainement.
C'est encore en cours. En cours de... J'ai plus le mot. En cours. Et donc, qu'est-ce que vous attendez d'elle aussi, au-delà d'une simple signature? Oui, parce que, enfin, il y a des mesures derrière, peut-être un petit peu détaillées, les obligations morales. Enfin, c'est pas obligatoire, mais qu'elle s'engage à faire si elle signe ce pacte.
Déjà, mettre en œuvre les mesures telles qu'on les a écrites. Et puis communiquer sur leur réalisation auprès de la population, faire des réunions publiques, après tous les moyens qu'elles trouveront pour mettre en avant les actions qu'elles ont faites. Puis nous, de notre côté, on sera le relais de tout ça, des succès mais aussi des échecs. C'est vraiment un travail avec les mairies qu'on souhaite avoir et on espère qu'elles joueront le jeu du ce pacte. Voilà.
Et donc justement, qu'est-ce qui se passerait si malheureusement les mesures ne sont pas respectées ou certaines mesures ne sont pas appliquées?
On va pas non plus les poursuivre en justice.
Non.
Hein. on rendra compte publiquement de ce qui est, par exemple, des engagements qui n'ont pas été tenus ou partiellement tenus. Et du coup, on fera aussi des réunions en tant que Passons-nous et Alternativa publiques pour dire, telle commune s'est engagée sur telle mesure, elle a réussi une certaine partie, et par contre, on regrette qu'il n'y ait pas eu la réalisation de telle autre. Et à la fin, on pourra faire, entre guillemets, une sorte de notation, en fait, sur l'avancement et la réalisation de ces différentes mesures en cours de mandat et en fin de mandat.
Et pour nous, c'est un objet politique. C'est-à-dire que là, on a travaillé une boîte à outils. Et du coup, on a travaillé une posture politique. Et nous, on la porte à passer en août 38 de se dire, voilà, c'est une des mesures qu'on demande. Et on en fera un sujet d'interpellation. Et on ira faire diffuser aussi ce pacte auprès des habitants pour dire, voilà les solutions où elles sont. Nous, on n'a pas tout. On a ouvert la porte. Et par contre, oui, on assume de dire, on mettra ça, on visibilisera toutes les actions qu'on a fait. On diffusera cette boîte à outils. On expliquera pourquoi on a fait ça. Et après, c'est la mairie, ceux qui ne le feront pas, ils auront des comptes à rendre aux électeurs. Donc c'est une posture politique et du coup, c'est de leur responsabilité. Nous, dans le cadre du pacte, Nicolas a très bien dit, mais aussi du côté de nos associations respectives, on fera vivre ce pacte.
Voilà, après les actions exactement, les actions d'interpellation, elles sont aussi à imaginer. On a des associations qui, Alternativa, on est associé avec ANV COP 21, qui ont un peu l'habitude de faire des actions vraiment de com et des coups de pour mettre en lumière des problématiques. Donc on peut imaginer ce genre de choses pour cibler certaines mesures, que ce soit le logement, que ce soit la question de l'inclusivité dans l'espace public. Voilà, il y a des choses à imaginer aussi pour interpeller et s'emparer faire vivre et le porter aussi.
On restera pas inactif, en tout cas, attendre des échéances qui sont dans le pacte. On sera actif aussi pour le faire vivre dans nos associations.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vouliez encore rajouter quelque chose à propos de ce pacte pour la transition. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, Clémentine.
Je voulais peut-être rajouter que inviter les listes candidates à nous contacter et pour signer le pacte d'ici la fin février, parce que pour qu'on puisse ensuite communiquer, dire quelle liste dans telle commune s'est engagée ou au contraire ne s'est pas engagée. Donc venez nous contacter.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup à vous, en tout cas, d'être venus aujourd'hui pour cette émission. Et puis, on remercie aussi Oscar, qui était à la technique.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Bruit de fond.
L'émission sur l'écologie de Radio Campus Grenoble.